Alors, pour commencer aujourd'hui, il faut vraiment qu'on fasse un petit saut dans le temps. Disons, en l'an 176 avant notre ère.
Ouais, une époque particulièrement brutale au passage.
Grave. Et on offre à un individu, un citoyen lambda, un choix d'une violence inouïe. En gros, il peut retrouver sa liberté, conserver sa vie, protéger tout son statut social. Mais à une seule condition.
Une toute petite condition en apparence.
C'est ça. Il lui suffit de prendre une simple bouchée de viande de porc. Une viande qui a été sacrifiée à une divinité étrangère. C'est tout, quoi. Juste un petit geste de compromission, et hop, tout redevient normal.
Mais s'il refuse, le prix à payer est terrifiant.
Absolument terrifiant. C'est la torture publique immédiate et une mort atroce. Et ça, c'était la réalité quotidienne sous le règne du roi Séleucide, Antiochus IV.
Tout à fait. Et c'est exactement le contexte de l'exploration d'aujourd'hui. On s'appuie sur une conférence académique vraiment fascinante du docteur David A. de Silva.
Ouais, une conférence qui analyse des textes antiques, c'est bien ça, hein?
C'est ça, et plus précisément les chapitres 11 et 12 de l'Épître aux Hébreux. Et ce qui est dingue, c'est que ce texte qu'on prend souvent pour une simple leçon d'histoire religieuse, c'est pas du tout ça.
Ah non!
Non, pas du tout. C'est plutôt décortiqué comme un véritable traité de psychologie, un manuel de survie en fait, pour des gens qui sont complètement broyés par la pression sociale et la marginalisation.
Et c'est ça qui est frappant, je trouve. La mission de notre discussion aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment un document aussi ancien redéfinit de fond en comble des concepts très profonds.
Des concepts comme le succès ou le courage, oui.
Exactement. Et la façon dont on gère la honte publique. On va croiser des lions affamés, des rebelles cachés dans les montagnes et même des espèces de gladiateurs spirituels.
Avec un renversement total des valeurs de la société de l'époque.
Bon, décortiquons tout cela. Ce qui saute aux yeux quand on lit cette fameuse liste des héros de la foi, ce fameux temple de la renommée, c'est qu'il y a une ligne de fracture brutale en plein milieu.
Ah oui, la structure du chapitre 11 est super étonnante pour ça.
Si je devais faire une analogie, tu vois, c'est un peu comme si on regardait une bande-annonce au cinéma.
Ok, je vois le genre.
Au début, pendant la première minute, on est devant un énorme blockbuster hollywoodien. Il y a des explosions, des actes de bravoure, des héros musclés qui sauvent la situation. Et puis, d'un coup sec, paf!
Sans aucune transition, hein.
Voilà, la bande-annonce bascule dans un drame indépendant, super sombre, douloureux et profondément tragique.
Et cette rupture de ton, elle est absolument centrale pour comprendre la stratégie de l'auteur antique. Parce que la première moitié de ces héros, ce sont des figures royales ou des grands juges militaires.
On parle de qui là, par exemple?
Eh bien, le texte cite Gédéon, David, Samson. Des hommes qui ont accompli des exploits éclatants, quoi. Des conquêtes territoriales, des victoires militaires massives.
Des trucs très visuels, très impressionnants pour les foules.
C'est exactement ça. Il mentionne même, et c'est super intéressant, des hommes qui ont fermé la gueule des lions.
Oh, comme l'histoire de Daniel, c'est ça?
Ouais, une référence hyper claire à Daniel. Ou d'autres qui ont survécu aux flammes, comme les compagnons de Daniel, tu sais, Shadrach, Meshach et Abednego. Totalement. Et ça s'étend même aux femmes. Le texte parle de la veuve de Sarepta ou de la Tsunamite, des femmes qui ont vu leurs enfants littéralement réanimés grâce aux prophètes Élie et Élisée.
D'accord, donc on a vraiment l'étalage complet de la victoire surnaturelle.
C'est ça. Des armées étrangères mises en déroute, ce qui évoquait sûrement les révoltes victorieuses des Maccabées pour les auditeurs de l'époque. Bref, cette première moitié, c'est le triomphe absolu. Les héros sont sauvés de la mort.
Et c'est précisément là qu'on arrive au pivot brutal. On est au milieu du texte, on tourne la page, et bam, la musique épique s'arrête.
Ouais, le verset 35, la bascule.
Soudainement, les héros ne sont plus sauvés de la mort. Ils sont sauvés à travers la mort. Et ça change tout.
C'est un changement de décor radical. D'un seul coup, on nous parle de martyrs qui refusent d'être libérés. On en revient à notre scène d'ouverture, tu sais, avec Antiochus IV.
L'histoire du porc sacrifié aux idoles.
Exactement. Ces croyants refusent de manger cette viande parce que ça va à l'encontre totale de leur loi, la Torah. Et ils en meurent de façon atroce.
Et il n'y a pas que des citoyens anonymes, si je comprends bien. Il y a aussi des figures historiques majeures qui finissent mal.
Ah oui, carrément. Les traditions juives de l'époque racontent que des immenses prophètes ont été massacrés. Jérémie aurait été lapidé et Ésaïe, il aurait carrément été scié en deux.
Scié en deux? Mais c'est épouvantable.
C'est d'une violence inouïe. Et pour eux, bah, il n'y a pas de miracle de dernière minute, quoi. Pas d'ange pour éteindre le feu.
Ce qui est fascinant, et c'est vraiment le cœur du paradoxe ici, c'est que du point de vue de n'importe quel Romain ou Grec de l'époque, ce deuxième groupe, c'est un groupe de losers complets.
Ah bah, socialement parlant, ce sont des perdants absolus, ouais.
Des vaincus, des gens humiliés sur la place publique. Et pourtant, le texte biblique les place exactement sur un pied d'égalité avec les généraux victorieux du premier groupe.
Ce qui est fascinant ici, c'est que l'auteur refuse d'utiliser le triomphe matériel comme critère de réussite. Pour lui, le seul vrai critère de grandeur, c'est la loyauté inébranlable.
Donc, que tu survives au feu ou que tu sois torturé à mort, c'est la même victoire.
C'est exactement la même valeur aux yeux de ce texte, oui. C'est une refonte complète de la définition du triomphe.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Parce que, honnêtement, si on regarde ça avec un œil un peu cynique aujourd'hui, on pourrait faire un gros pushback.
Ah, lequel ?
Eh bah, ben, est-ce que ce discours-là, ça ressemble pas juste à un énorme mécanisme de défense psychologique ?
Comment ça ?
Bah pour des gens qui ont totalement échoué en société. C'est un peu comme, disons que tu ouvres un resto, c'est un désastre, tu reçois une critique à une étoile sur Internet, et là, tu cries sur tous les toits que c'est le critique qui n'a aucun goût de toute façon.
Ouais, je vois tout à fait. La rationalisation de l'échec.
C'est ça ! Est-ce qu'ils n'inventent pas juste un système de valeurs alternatifs pour protéger leur égo meurtri ?
Eh bien, l'analogie de la critique à une étoile, elle est parfaite en fait. Parce que c'est exactement ce que fait l'auteur de l'épître, mais avec une adresse intellectuelle incroyable.
Ah oui, il assume ce renversement.
Totalement. Au milieu de cette liste de tortures, il lâche une phrase choc, une sorte de parenthèse, qui dit « des gens dont le monde n'était pas digne ».
Dont le monde n'était pas digne, waouh.
C'est une inversion totale du tribunal. Dans la culture gréco-romaine, c'est la société dominante qui juge. Si tu es marginalisé, c'est toi qui es en tort. Mais l'auteur dit, non, non. Ce n'est pas le croyant qui est évalué et recalé par la société. C'est la culture dominante elle-même qui est jugée et trouvée défaillante.
Donc le critique à une étoile, c'est la société. C'est elle qui a tort.
Voilà. La société se montre tellement cruelle qu'elle prouve qu'elle n'est pas digne d'accueillir ses croyants. C'est une réévaluation psychologique brillante pour des gens qui vivent à la marge.
Et d'ailleurs, quand on parle de vivre à la marge, les détails factuels dans la source sont dingues. Il parle de l'apocarésis, c'est ça, hein ?
Oui, l'apocarésis, c'est la fuite littérale vers les marges, dans les montagnes ou les déserts, pour échapper aux persécutions.
Et le texte décrit ces croyants qui errent, vêtus de peau de mouton et de chèvre. Ce qui, visuellement, les exclut instantanément du reste du monde.
Ah bah, complètement. Faut se rappeler que dans le monde anti-civilisé, un citoyen respecté, il porte du lin ou de la laine finement tissée par des artisans. C'est le marqueur social par excellence, tu vois.
Donc, se balader en peau de bête non travaillée, c'est littéralement porter l'uniforme du sauvage, du paria.
C'est ça. T'es hors de la civilisation. Et l'auteur demande à son auditoire, qui subit sans doute le même déclassement social, de prendre cette honte publique, cette perte de statut, et de l'arborer comme une médaille d'honneur.
C'est une reprogrammation mentale complète.
Absolument. L'exclusion devient la preuve que tu appartiens à la bonne équipe, celle des héros.
C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'après avoir redéfini l'honneur comme ça, le texte change carrément de décor. On quitte le champ de bataille pour entrer dans une arène athlétique.
Ouais, le fameux stade du chapitre 12.
Voilà. Et l'analogie que je m'imagine, c'est celle d'une immense course de relais. Sauf que les coureurs précédents, les prophètes, les martyrs en peau de bête, bah, une fois qu'ils ont passé le relais, ils vont pas s'asseoir à la buvette pour manger un hot dog.
Non, ils s'installent dans les gradins VIP.
C'est ça, ouais. Ils scrutent chaque mouvement du coureur actuel. Mais la pression que ça doit représenter de courir sous le regard de ces géants de l'histoire, c'est immense, non ?
Si l'on relie cela à la vue d'ensemble du texte, c'est crucial. L'auteur parle d'une nuée de témoins. Et ces témoins, c'est pas des fans bedonnants qui regardent du sport à la télé, hein.
Ce sont des anciens médaillés olympiques.
Exactement. Ce sont des gens qui ont sué et saigné sur cette même piste. Du coup, la cour de réputation change. L'opinion de ton voisin romain qui te méprise, elle vaut plus rien. Ce qui compte, c'est l'approbation de cette lignée temporelle de héros.
Donc, le public qui te juge, ce n'est plus la société présente, mais l'histoire passée.
C'est tout à fait ça. Et l'auteur précise un détail super important. Les héros de l'Ancien Testament, ils n'ont pas encore reçu la promesse finale de leur vivant. Pas pour rien, mais Dieu avait prévu, je cite, « quelque chose de meilleur », c'est-à-dire l'arrivée de Jésus, « pour que tout le monde franchisse la ligne d'arrivée ensemble ».
Oh, c'est beau ! Donc il y a une vraie solidarité intergénérationnelle.
Voilà, on arrive au but ensemble. Mais du coup, pour courir cette course aujourd'hui, l'auteur donne un conseil très pragmatique. Il faut rejeter tout fardeau.
Et quand on parle de fardeau, c'est pas juste des pensées négatives, hein?
Ah non, dans ce contexte historique, les fardeaux, c'est du lourd. C'est la réputation sociale, par exemple. Essayer de garder une bonne image chez les Romains, c'est comme courir avec des chaussures de plomb.
Donc il faut accepter de perdre sa réputation? Quoi d'autre?
Les biens matériels. Tes propriétés, ton compte en banque, ta sécurité physique. Si tu as peur de perdre tout ça, tu ne peux pas courir. Et bien sûr, l'auteur parle aussi du péché, ce qui à l'époque se traduisait souvent par la tentation de l'idolâtrie pour avoir la paix.
Ça demande un courage hallucinant. Et d'ailleurs, l'expert de notre source évoque ça. Dans l'Antiquité, le courage, c'est le soldat. C'est martial. Mais ici, ce courage, il est transféré à la vie civile, non?
Complètement. Le courage hoplitique, celui du guerrier grec qui tient sa ligne, il est récupéré par le texte. Mais la ligne de front n'est plus sur un champ de bataille. Elle est au marché du coin, face aux injures de tes voisins. C'est l'endurance spirituelle qui devient la forme suprême du courage.
C'est dingue. Mais pour courir sans s'effondrer avec ce nouveau type de courage, on a besoin d'un modèle. Et c'est là que le texte pointe vers l'exemple ultime, celui de Jésus.
Le pionnier et le perfectionneur de la foi, comme le dit le texte grec.
Ouais, et ce qui est troublant dans la conférence, c'est la description de la crucifixion. C'est pas juste une torture physique, c'est l'acte de dégradation publique absolue.
C'est la honte poussée à son paroxysme, ouais.
L'analogie utilisée est frappante, hein. La croix, c'est un panneau d'affichage humain. C'est fait pour dire à tous les passants, surtout, ne devenez jamais comme ce type-là.
C'est un instrument de terreur sociale, ouais.
Du coup, comment on fait pour activement ignorer un tel niveau de honte publique ? Psychologiquement, on est tous programmés pour chercher l'approbation sociale, non?
Cela soulève une question importante, et c'est vraiment le cœur de la démonstration du docteur De Silva. Le concept clé du texte, c'est qu'il faut mépriser la honte.
Mépriser la honte? Ça veut dire faire comme si ça ne faisait pas mal?
Non, c'est pas du déni de la douleur. Les crachats et les insultes, ça fait mal. Mépriser la honte, c'est une décision mentale. C'est désactiver volontairement sa sensibilité à l'opinion des non-initiés.
Donc, on décide que leur avis vaut zéro.
Exactement. Et d'ailleurs, le grec utilise une petite préposition très révélatrice, « anti ». Jésus a enduré la croix « anti » la joie qui lui était réservée.
« Anti », ça veut dire « contre ».
Alors souvent, oui. Mais ici, c'est dans le sens de « en vue de » ou « pour l'amour de ». C'est pas « au lieu de » la joie. Il a enduré la honte temporaire pour obtenir la joie éternelle, celle de s'asseoir à la droite de Dieu. C'est un calcul d'investissement à long terme.
C'est fou de penser ça comme un investissement. Et cette idée de se ficher de l'opinion publique, l'expert précise que ça ne sort pas de nulle part, culturellement parlant.
Non, il y a des parallèles évidents avec la philosophie gréco-romaine. Platon ou des stoïciens comme Sénèque et Épictète enseignaient déjà ça.
Que l'avis de la foule ne compte pas.
Voilà. Pour un vrai philosophe antique, se soucier de l'opinion des ignorants, c'est une distraction toxique qui t'éloigne de la vertu. Et l'auteur de l'épître reprend cette posture élitiste pour l'appliquer à tous les croyants persécutés.
C'est hyper puissant. T'as une citation là-dessus, je crois.
Ouais, il cite Jean Chrysostome, un grand penseur chrétien du 5e siècle, qui résume la chose magnifiquement. Jésus est mort de façon honteuse pour nous apprendre à considérer l'opinion humaine comme néant.
Considérer l'opinion humaine comme néant. Waouh. Si on récapitule la leçon fondamentale de cette épître, selon cette analyse, c'est que la foi... C'est pas juste croire en des trucs. C'est une réorientation ultra radicale de nos ambitions.
C'est ça. Le texte force chaque génération à se poser la question « qu'est-ce qui est vraiment réel ?»
Ouais. Est-ce que ce sont les récompenses tangibles? Tu sais, l'immobilier, le luxe, le compte en banque bien rempli, la sécurité financière. Ou est-ce que ce sont les récompenses intangibles de l'obéissance à Dieu?
Et c'est là que l'exemple de Moïse est super intéressant. L'expert souligne que chaque individu fait face à deux destinées.
Deux destinées? Comment ça?
Bah, il y a celle pour laquelle la société nous programme. Dès l'école, on nous pousse à devenir des citoyens aisés, fiables, intégrés, respectés par nos pairs.
Le parcours classique de la réussite, quoi.
Voilà. Et puis, il y a l'autre destinée, celle qui demande de tout quitter pour devenir ce qu'il appelle des étrangers idéologiques. Des gens capables de rejeter les standards de leur propre culture.
Ça demande une force de caractère incroyable. Et ça m'amène à une réflexion provocatrice pour clore notre exploration. Une pensée que la source inspire, mais qui résonne vraiment avec notre quotidien aujourd'hui.
Ah, vas-y, je t'écoute.
Eh bien, imaginons un instant qu'un historien du futur, dans 1000 ans, veuille comprendre qui étaient les gens de notre époque. Mais il n'a accès qu'à deux choses. Notre agenda hebdomadaire ultra détaillé et nos relevés bancaires d'aujourd'hui.
Oula, ça sent la question piège.
Grave. S'il analysait froidement où va notre temps et où va notre argent, est-ce qu'il ne conclurait pas que notre véritable religion, au fond, c'est juste le conformisme absolu à notre propre culture?
Ouais, c'est une excellente question et ça pique un peu.
Et pour aller encore plus loin, se pourrait-il que ce que nous appelons aujourd'hui avec tant de fierté réussir sa vie, ce soit, selon la définition stricte de ce texte antique, exactement le fardeau qu'on nous demande de jeter sur le bas-côté de la piste? Je laisse cette question en suspens pour que chacun puisse y réfléchir.